projet pour faire les bilans aux appels à projets, alors qu'avant c'était plutôt une subvention de fonctionnement globale et on avançait comme ça et c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui il faut guetter les appels à projets, avec l'Europe des fois on nous retire des budgets ou quoi que ce soit. Radio HDR avait eu des problèmes notamment avec des fonds européens il y a quelques années. Donc les appels à projets pour moi sont, on met en difficulté rien que par ça les associations et il faut beaucoup plus faire confiance aux associations et comme je vous disais faire des conventions pluriannuelles sur du fonctionnement et après vous développez votre projet qui rentre dans un intérêt public, un intérêt général et comme je disais en début de présentation, les associations c'est une vraie richesse pour moi, pour une ville, c'est vraiment, en plus c'est des choses que la ville ne pourrait pas faire sans ces associations quoi que ce soit, donc il faut vraiment les aider. Au point de vue national, comme dans certaines villes comme vous le disiez, il y a un recul par rapport à ça. Et ça, je sais que Florence Herouin-Dautet, notre députée, travaille beaucoup là-dessus dans sa commission et travaille vraiment pour défendre le monde associatif. Et enfin, elle est déjà venue ici, je le sais.
Oui, non, non, on va la recevoir dans quelques jours pour parler d'une commission en charge, malheureusement, de l'ARCES.
Oui, elle est beaucoup sur ces sujets-là aussi.
Pendant ce moment-là, mais aussi de parler aussi de politique nationale et tout ça. Donc, on va bientôt recevoir Florence.
Et donc, voilà, Florence travaille beaucoup sur ces sujets, justement, au niveau national, pour défendre le monde et le secteur associatif.
Mais c'est vrai que vous avez raison. Désormais, nous allons faire une petite pause musicale parce que il est temps de se laisser respirer. Nous allons revenir dans quelques minutes. Je vous propose d'écouter Léa de Louise Attaque.
Elle n'est pas froide, elle n'est pas chaude pour une nuit réaliste. Elle n'est pas créditeur, elle n'est pas méchante. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée, elle est pas fut-fut, elle est pathétique, elle aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas paresseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé, elle est pas une shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable, et ça je voulais papa déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus, elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
Oh mon job la technique. De retour sur la voie des municipales, toujours en compagnie de Ludovic. Yep, là, le nom de famille décidément.
De l'Esque.
on va couper son montage. De retour sur la voie des municipales, toujours en présence de l'ex. Alors, on était sur la feuille de route de la majorité municipale. Moi, j'ai un peu envie de faire de... Ça m'arrive, voilà, dans cette émission, des fois, de faire des retours en arrière. La campagne, les premiers mois de campagne, comment ça se passe, en fait, quand on s'engage pour le peuple, pour ses concitoyens?
C'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps vit sur la vie de famille et la vie professionnelle. Il faut se dégager du temps. Là, en tant que directeur de campagne, c'était beaucoup de temps d'organisation pour avoir des équipes, voir comment on allait monter le programme, parce que le projet, il ne se monte pas tout seul. Ce n'est pas que des idées d'une ou deux personnes. Là, on a fait beaucoup d'ateliers. Il y avait 7 groupes différents avec une quinzaine, vingtaine de personnes par groupe sur des thématiques pour réfléchir, voir ce qui avait été fait, voir ce qu'on pouvait proposer, voir si c'était possible financièrement, techniquement ou quoi que ce soit. Donc chaque groupe s'est réuni 3, 4, 5 fois pour proposer des actions, proposer des projets et mettre en place ça pour in fine regarder l'ensemble, faire une enveloppe financière pour l'ensemble et proposer le projet qu'on a proposé avec Fier de Rouen, avec Nicolas Meyer-Rossignol. Donc voilà, il y a tout à organiser. Les premiers temps, c'est de l'organisation avant tout. Et après, c'est vraiment la suite de la campagne va être plus sur du travail militant, de distribution, de collage, de marché, de porte-à-porte, de choses comme ça. Mais les premiers temps sont beaucoup plus de réflexion dans une campagne.
En plus, composer une liste à 55 membres, donc 54 plus la tête de liste, c'est compliqué, surtout que Fier de Rouen, c'est le PS en majorité, mais Place Publique, les écolos, enfin ELV, LPC et des membres justement qui n'ont jamais fait de politique.
Comme Éveil Citoyen, oui, tout à fait.
Inscrits dans un parti, donc comment s'accorder? Bon, vous me direz, vous avez la chance, c'est que vous avez déjà eu, entre guillemets, ce fonctionnement pendant la mandature précédente. Mais c'est pas simple aussi de se renouveler avec, comme on a pu le dire précédemment dans la première partie, avec l'approche de la présidentielle, des fois, il peut y avoir des petites tensions.
Ah, il peut y avoir des tensions. Là, il n'y en a pas eu. La campagne dans notre groupe avec Place Publique, les écologistes,
le PC. Non, parce que la différence, c'est que là, vous êtes partis tous ensemble.
C'est ça. Et on sent aussi en début de mandat tour, où ça se passe vraiment très, très bien. On avance vraiment tous ensemble. Et ça, c'est vraiment... c'est très agréable. Donc, on n'a pas eu ces tensions en début de campagne. Et une liste, c'est jamais facile à faire parce qu'il faut qu'elle soit représentative de la ville, elle soit représentative de tous les quartiers, de toute la diversité, de femmes, des hommes différentes. Donc, voilà, c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est la liste que Nicolas Meyer-Rossignol propose en fonction de tout ça. Et enfin, voilà, c'est jamais facile, mais... Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent rejoindre une liste parce qu'ils souhaitent aussi travailler pour les habitants, pour leur commune. Et ça, c'est important et c'est un engagement fort de s'engager pour une liste, quelle que soit la liste.
Moi, je l'ai vu pendant les réunions bilan, on va dire, je dirais pas éteint, mais en attente. Et au moment où il s'est déclaré, on a senti une envie d'y aller, quoi. Il s'est dit, c'est bon, ça y est, c'est notre moment, c'est le moment avec mon équipe et je peux enfin me lâcher et prendre du, malheureusement ou heureusement, prendre du plaisir pendant cette campagne.
Ah bah oui, c'est à dire quand on part en campagne, il y a une énergie qui arrive et il faut dégager une énergie et il faut faire passer cette énergie aux habitants. C'est comme ça aussi qu'on donne envie pour qu'on vote pour soi, pour qu'on vote pour une liste, pour un projet ou quoi que ce soit. C'est donner cette envie. Et Nicolas Meyer-Rossignol, a un dynamisme qui dégage vraiment quand il est en campagne et qui propose sa candidature, qui propose le projet qu'on a préparé en commun et qui donne envie, justement. Et c'est là où il est fort aussi dans ses moments de campagne. Et comme vous le dites, il dégage cette envie, cette énergie pendant une campagne. Et il faut le faire. C'est comme ça aussi qu'on gagne une campagne.
Et au niveau de la métropole, parce qu'on a parlé beaucoup des municipales à juste titre, mais justement, les municipales, c'est aussi la métropole de Rouen. Il n'y avait pas d'inquiétude au moment de l'élection, au deuxième tour, de se dire on va peut-être perdre notre majorité à la métropole, sachant qu'il y aurait pu y avoir du dégagisme dans d'autres villes, moyennes, plus petites, qui n'auraient pas réélu les maires ou élu des maires composant la majorité de la métropole.
Bah, y a toujours un risque. C'est-à-dire une élection, c'est jamais gagné d'avance. Et vous avez raison de parler de la métropole. J'ai juste évoqué un sujet avant. C'est que la ville sans la métropole, c'est rien. La voirie, c'est la métropole. Les transports en commun, c'est la métropole. L'eau, c'est la métropole. Il y a plein de sujets comme ça. Le vélo, les lots-vélos, les vélos en libre accès, c'est la métropole, tout ça. Et donc, dire qu'on va faire des choses sans la métropole, ça n'est pas possible. Et c'est ça qui est important. Et donc, d'avoir justement un maire président de la métropole, c'est ça qui permet aussi à Rouen d'avancer. Est-ce qu'il y aurait pu avoir perdre la majorité à la métropole ? Oui, ça aurait été possible. Mais c'est aussi l'avantage qu'on a, c'est que nous, on avait vraiment un rassemblement, un collectif métropolitain avec de nombreux élus et candidats où on avait un projet, un programme en commun, notamment avec les transports en commun gratuits on en parlait tout à l'heure, pour les moins de 25 ans et plus de 65 ans, pour le déplacement en vélo, les choses comme ça. On avait un vrai programme ensemble. Et on a la chance vraiment d'avoir des élus d'autres communes qui sont vraiment de proximité, implantés, qui font vraiment un gros travail. Je pense à Julie Lesage sur Grand Couronne, à Djoudé Merabé sur Elbeuf, et il y en a encore plein d'autres. Hein. Nicolas Rouli
sur Djoudé Merabé qui avait fait un bon score.
Ah oui, il a fait un très gros score. Tom Delahaye, qui était nouveau maire sur Canteleu, qui a fait un énorme score aussi, par exemple. Donc on a vraiment des élus de proximité qui font un gros travail, et c'est comme ça aussi que la métropole est restée à la majorité à gauche, et avec Nicolas Mérossignol comme président.
On continue un peu à discuter, on va dire, coulisses. On a eu votre ressenti pendant le soir du deuxième tour, mais c'est surtout, moi, j'aimerais bien savoir, c'est quand il vous a demandé de devenir son directeur de campagne, quand il vous a dit, voilà, je veux que tu fasses à nouveau partie de l'équipe, parce que vous avez dit, vous étiez déjà élu à la mairie de Rouen. Ça vous a fait quoi? Vous avez dit, bon, j'y vais ce coup-là, ou je prends quand même le temps de réfléchir?
Ah, ça faisait quelques temps qu'on en discutait ensemble avec Nicolas, avant même de me demander d'être directeur de campagne, mais que je rejoigne la liste. Il y avait une envie en commun, mais j'avais envie de prendre du temps aussi pour ma famille. C'est important, c'est mon équilibre, ma famille. Et donc, je voulais prendre ça. Mais depuis quelques temps, on en discutait, et j'avais vraiment réfléchi à savoir si je souhaitais revenir ou pas. Et donc, on avait discuté ensemble là-dessus. Et quand il m'a demandé d'être son directeur de campagne, c'est un véritable honneur. C'est-à-dire qu'il me fait confiance. C'est-à-dire que voilà, j'ai plutôt pas trop mal travaillé quand j'ai été élu ou par rapport à ce que j'ai pu faire quand je portais des projets. Et donc, il sait que moi, je me mets toujours au service du collectif. Je ne suis pas l'élu qui a le plus d'ego. Ce n'est pas moi qui envoie le plus sur les plateaux télé ou les choses comme ça, ou sur les plateaux de radio. C'est assez rare. Mais justement parce que je me mets au service du collectif pour l'équipe et pour le projet. Donc c'était un véritable honneur quand il m'a proposé ça.
Et être président de groupe, parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on ne connaît pas forcément. On connaît plus ça au niveau Assemblée nationale, mais on ne connaît pas forcément ça au niveau local. Ça doit être aussi compliqué parce qu'il faut gérer aussi un collectif.
C'est ça, c'est gérer un collectif. Donc ça va dans la suite pour moi de directeur de campagne, c'est vraiment gérer un collectif, être coordonnateur de l'équipe. C'est-à-dire, ce n'est pas moi le chef de l'équipe, c'est juste je coordonne, je fais en sorte que tout se passe bien, que tout le monde ait les informations quand il y en a besoin, que tout le monde ait accès au projet, que tout le monde puisse avancer, s'épanouir dans sa délégation et avoir cet espace politique justement dans sa délégation. Mon rôle, c'est vraiment un peu de coordonner tout ça. Donc, ce n'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Là, je rencontre chaque élu pour savoir justement du groupe, pour savoir si tout s'est bien passé ou pas pendant le début de mandat, comment on peut améliorer, est-ce que je peux aider à quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, c'est beaucoup de temps, mais c'est une très belle mission et je remercie Nicolas Mérossignol de me l'avoir proposé.
Et continuons à discuter aussi de la feuille de route. On va revenir sur l'équipe EV. On va encore jouer au jeu, mais des associations d'idées et de mouvements. Beaucoup critiquent les quartiers populaires, beaucoup les valorisent, beaucoup voient du bien, beaucoup voient du mal. Vous, quelle est votre vision et la démarche pour les prochaines années?
Les quartiers politiques de la ville, QPV, quartiers prioritaires comme on appelle ça aussi, oui. Voilà, pour moi c'est indispensable. c'est de raccrocher, enfin je ne vais pas dire le contraire, alors que je viens de la Grand-Mare, et je vois tout ce que ça, tout, comment le quartier a changé, même s'il reste encore à faire, je vois comment ça a aidé, moi j'ai été aidé, hein, j'étais boursier, les collectivités m'ont aidé pour être élu aujourd'hui, donc il faut absolument c'est rendre tout ça à ces quartiers, à ces habitants, et donc du coup, on entend hein, certains partis remettre en cause même les crédits pour les quartiers prioritaires ou quoi que ce soit, que ça servira à rien ou quoi que ce soit. Non, au contraire, il faut continuer, il faut poursuivre, il faut même amplifier pour qu'on continue à aider les habitants, qu'on rénove les logements, il y en a besoin, qu'on aide les associations dans ces quartiers, pour qu'ils aident les habitants avant tout. Hein. Ça sert à ça, les associations. Et qu'on, la collectivité, les collectivités, la puissance publique, comme on dit, doit être à côté aux côtés de ces quartiers en priorité.
C'est la mairie qui est en charge directement de la cité éducative ou c'est l'État qui délègue aux collectivités?
Alors c'est un label, je connais moins ce sujet-là, très clairement, mais c'est un label qui est décerné par l'État à des collectivités qui se portent candidates. Et après, l'État aide les collectivités pour mettre en place cette cité éducative.
D'accord, donc ouais, je ne vais pas vous poser la question pour ne pas vous mettre en difficulté parce que on a entendu parler comme quoi que ça risque d'être supprimé pour l'année prochaine, donc je ne vais pas non plus...
Entendu parler aussi, je n'ai pas plus d'informations aujourd'hui, donc Florence Herouin-Lauté en aura beaucoup plus que moi, mais on a entendu parler, oui, que l'État voulait revenir en arrière sur ces cités éducatives.
Alors qu'en plus de ça, on peut en parler sur le plan générique, c'est efficace, c'est un dispositif qui marche bien, parce que ça accompagne justement la réussite éducative. Ça a été écrit pour ça.
Ah, mais il y a plein de dispositifs comme ça. Au travail, moi, je travaille avec une équipe emploi-insertion qui regroupe plusieurs professionnels de l'emploi dans un même lieu. On voit que ça marche. Et pourtant, il y en a de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de crédits. L'État revient de plus en plus là-dessus. Les différents services publics de l'emploi se recroquevillent dans leurs locaux ou quoi que ce soit. Alors que c'est ce qui marche le plus. Et on voit que les collectivités qui avaient des lieux spécifiques à l'emploi sont celles qui ont mieux résisté justement quand il y a eu des difficultés au niveau de l'emploi et du chômage. Donc la cité éducative, c'est la même chose. On voit que ça fonctionne et pourtant avec les baisses de crédit, on voudrait peut-être remettre en cause ces modèles-là. C'est marché à l'envers pour moi. Et ce qu'on ne dépense pas aujourd'hui, on le dépensera deux ou trois fois plus demain. Et c'est des mauvaises économies qui sont faites. Donc c'est comme ça.
Il y a eu l'association Red Aventure qui est venue faire... Faire des ateliers sur les hauts d'Oran pas plus tard que samedi, quand il y avait les hauts du talent et puis l'événement La Ferme des Hauts. Comment rapprocher jeunes et police? C'est un sujet qui revient, j'ai envie de dire, quasiment tous les mois, tous les trimestres, où on veut faire ça, on veut accompagner, mais dans ce sens-là, et on n'arrive toujours pas à trouver la bonne formule.
Déjà, ça a été une mauvaise chose quand Nicolas Sarkozy a...
ça, c'est ma phrase fétiche.
...a supprimé la police de proximité. Parce qu'il faut qu'il y ait des liens réguliers entre la police et les jeunes, si on veut se parler, si on veut se comprendre ou quoi que ce soit. À partir du moment où on ne se voit pas, où on n'échange pas, il y a une distance qui se met. Et une solution serait de remettre cette police de proximité. La police municipale doit servir à ça, mais on n'est pas assez, on n'a pas les moyens, on n'a même pas la compétence en soi. C'est l'État qui a la compétence de police, de la police nationale. Donc il faut absolument se rapprocher le plus possible, faire en sorte que des policiers viennent dans les collèges, viennent dans les écoles pour dire leur travail, dire ce qui se passe, comment ça se passe ou quoi que ce soit, pour rapprocher vraiment la police des habitants. Ça, pour moi, c'est indispensable, indispensable.
Surtout qu'en plus de ça, on va reciter la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy. Les jeunes ne sont pas... Enfin non, pardon, excusez-moi. Les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes, ce qui est totalement idiot en fait.
Totalement. Ah, je partage totalement. Ouais.
Et c'est pas une formule polémique dans ma bouche, chers auditeurs. C'est juste pour dire que si on veut une bonne entente qu'on a connue, vu que vous êtes aussi un enfant des Hauts-de-Rouen, bah, le meilleur moyen, c'est que l'entente se fasse et que la police connaisse les jeunes de leur territoire.
Tout à fait.
Le seul moyen de connaître les jeunes de son territoire de façon bienveillante, c'est qu'il y a des moments ludiques. Comme j'ai dit précédemment, l'association Red Aventure est venue sur le Hauts-de-Rouen ce week-end justement pour être proche. Et de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, les jeunes étaient contents.
Ben oui, bien sûr. Vous avez totalement raison. Quand je me rappelle de cette phrase de Nicolas Sarkozy, les policiers ne sont pas là pour jouer au football. Bah si, ils sont là aussi pour ça. Parce que c'est comme ça qu'on se connaît, c'est comme ça qu'on s'appréhende mieux et qu'on peut justement avoir le respect commun derrière. Donc c'est ça qui manque aujourd'hui.
Est-ce que la mairie et la métropole envisagent aussi d'améliorer sa politique de logement, de créer peut-être un peu plus de mixité, je sais qu'il y a un renouvellement urbain sur le Châtelet en ce moment et sur d'autres quartiers de Rouen.
Oui, le logement a depuis longtemps été une priorité pour la ville. Et justement, on voit dans certains quartiers, il y avait 100% de logements sociaux et pas du tout de logements privés. Pour la diversité, ça change. Au Châtelet, justement, ça a été changé. Je me rappelle de cette règle. Il y a une règle, la loi SRU, Solidarité et Aménagement Urbain, demande 25% de logements sociaux dans toutes les grandes communes, enfin dans toutes les communes. Certaines communes ne le respectent pas.
Non, ils préfèrent payer l'amende. Ce qui est triste d'ailleurs, mais bon.
Mais on peut voir aussi qu'on peut respecter la loi en mettant 25% de logements sociaux dans un quartier et 0% dans le reste des quartiers. Et là, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de mixité ou quoi que ce soit. Et là, une décision qui avait prise Yvon Robert à l'époque et qui était très bonne et qui met du temps, parce que pour transformer une ville comme Rouen, c'est pas rapide, on va dire, mais c'est dans toute construction de plus de 5 logements qui est ces 25% de logements sociaux. Ce qui fait que, comme ça, on crée des logements sociaux partout dans la ville. Et c'est ce qu'il faut. Il faut des logements sociaux dans Jouvenet, autour de la gare, et moins de logements sociaux sur l'île de Rouen, où il y avait 100% de logements sociaux, comme à Lombardie, au Châtelet, pour pouvoir avoir cette mixité de logements. Et il faut pouvoir rénover, et ça c'est aussi avec l'aide de l'ANRU, mais rénover les logements. Et on voit qu'il y a des besoins de rénovation de logements, et ils sont rénovés au fur et à mesure. Mais il y a des grands plans. Là, par exemple, au Sapin, il y a eu des rénovations de logements avec tous les immeubles. Il y a eu les démolitions des Canadiens pour faire des pavillons à la place, pour faire une mixité de logements, parce que les champs recherchent aussi beaucoup plus de maisons, de pavillons que d'appartements, des choses comme ça. Donc il faut pouvoir proposer ça.
Ah bah, quand on a vécu pendant plus de 40 ans dans des appartements, bah au bout d'un moment, on aimerait bien aussi pouvoir être... malheureusement, les gens n'ont pas forcément les financements pour déjà s'acheter une maison, mais ils aimeraient bien aussi pouvoir justement vivre dans une maison. C'est vrai que...
Bah, c'est pour ça qu'il faut du logement social.
Je dis 40 ans, j'ai pas 40 ans, mais je comprends l'idée.
Bah non, mais c'est ça. Et quand on va avoir la canicule cet été, avoir un petit coin de fraîcheur avec un petit jardin, tout ça, c'est indispensable. Et donc, il faut que les bailleurs sociaux, et Rouen Habitat joue sa part là, en construisant aussi des pavillons, comme il y a eu les pavillons de 3F à la place des Verres et Acier à la Grand Mare, juste à côté. Donc ça, c'est important.
C'est vrai, et puis comme je sais que Rouen Habitat aussi a des logements dans le quartier de Luciline au niveau des docks.
Oui, tout à fait.
Ce qui est pas mal. Après, il faut aussi que les bailleurs, et je ne vise pas forcément le bailleur municipal, mais les bailleurs en général, se mettent en tête que la mixité sociale ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de ramener des urbains dans les quartiers, mais aussi de laisser passer les gens venant des QPV aussi en ville ou en centre-ville.
Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des logements sociaux dans tous les quartiers, vous parlez de Luciline, mais dans tous les quartiers de la ville, pour justement que les personnes qui viennent de la Grand Mare ou qui viennent de Gramont ou de choses comme ça puissent aussi à un moment aller dans d'autres quartiers. Tout à fait.
Nous avons pu aborder, je pense, tous les sujets concernant à la fois le bilan de la campagne municipale, mais aussi ce début de feuille de route. Je sais que la véritable installation de la feuille de route sera faite d'ici fin septembre. Si mes échos et mes petites oreilles ont bien entendu, c'est maintenant le moment de votre carte blanche. Alors, on a discuté de plein de choses. Je sais que vous avez beaucoup parlé au micro, mais je vous invite à nous délivrer les mots que vous souhaitez pendant 5 minutes.
Bon, je ne sais pas si je vais durer 5 minutes, mais...
5 minutes ou moins, mais en tout cas, voilà, vous avez une palette large.
Moi,
la radio HDR a cet avantage de laisser ses invités.
Et je vous en remercie. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne jamais oublier d'où on vient. Comme je vous disais, moi, je suis né à la Grand Mare, enfin au Châtelet même, et je suis venu à la Grand Mare après. Je sais ce que l'État, les collectivités m'ont apporté. Et si je suis élu aujourd'hui, c'est pour justement rendre ce qu'on m'a apporté et faire voir que. C'est pas parce qu'on vient de la Grand-Mare, c'est pas parce qu'on vient du Châtelet qu'on peut pas réussir, qu'on peut pas être élu à la ville de Rouen ou quoi que ce soit, et qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire à ce qu'on souhaite avoir, et c'est pour ça que j'ai voulu être élu. Et un élu, c'est pas une personne au-dessus. Et on croit, et des fois, on a ce retour des personnes. C'est pas une personne au-dessus des autres ou quoi que ce soit. Hein. C'est la même chose que n'importe qui. C'est la même chose qu'un bénévole associatif ou quoi. On est bénévole politique. C'est-à-dire qu'on aide pour que la vie des habitants d'une ville et la vie de la ville se passe mieux demain que hier. Et on est là que pour ça. Et on est que de passage. On est que de passage. Je ne serais pas élu toute ma vie ou quoi que ce soit. J'en ai pas envie, mais parce qu'on n'a pas des idées non plus tout le temps ou quoi que ce soit. Et qu'il y a des personnes qui arrivent et qui ont de meilleures idées que nous. Et donc, il faut laisser la place ou quoi que ce soit. Donc, mon but, c'est justement de faire en sorte que les Rouennaises et les Rouennais, les habitants notamment de la Grand-Mare et des autres quartiers de Haut-de-Rouen, vivent mieux demain que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et c'est vraiment mon rôle tel que je vois qui est élu. Et si on est élu, comme je le suis aujourd'hui, bah c'est, on ne travaille pas pour être élu. On travaille parce qu'on a été élu. On travaille parce qu'on a été élu par des personnes et il faut travailler pour eux pour essayer de rendre la confiance qu'ils vous ont donnée. Et c'est ça qui est important pour moi dans le rôle d'un élu.
Mais c'est pas simple de s'engager. Enfin, on peut vite fait débriefer sur ça. C'est devenir élu, s'engager, comme je l'ai dit précédemment, pour ses concitoyens, c'est pas facile. Je pense pas que des gens du jour au lendemain pourraient se dire moi je suis capable de m'engager. Et je pense que vous avez déjà connu ça, vous avez dû entendre parler par des concitoyens, c'est que des fois il y a des professeurs qui cassent l'élève quand il veut faire quelque chose parce que il est pas dans le moule. Donc automatiquement si un élève peut-être en cuisine, en CAP cuisine, voudrait s'engager pour sa ville ou pour ses concitoyens, mais on lui dit bah non, t'es pas capable parce que tu n'as pas de bac, parce que tu n'as pas fait de grandes études, parce que ceci, parce que cela.
Il n'y a absolument pas besoin d'avoir le bac pour avoir des bonnes idées. Et il n'y a pas besoin de sortir d'établissements renommés pour avoir des bonnes idées ou d'avoir un diplôme, je sais pas quoi, pour avoir des bonnes idées pour son quartier. On vit dans un quartier, on vit dans une ville. C'est nous qui, enfin, quand je dis nous, c'est nous tous. Hein. Là, il y a des stagiaires, ils sont aussi là. C'est vous qui avez les bonnes idées. C'est vous qui vivez le quartier. C'est vous qui pouvez dire, tiens, ça peut marcher. Moi, je peux avoir une idée qui est totalement bidon. Sauf que je me dis, c'est la mienne, donc c'est la meilleure ou quoi que ce soit. Et qu'au contraire, ça va être bidon. Et donc, du coup, il faut que les habitants se disent, ah non, c'est pas ça du tout qu'il faut pour notre quartier. Et ce serait plutôt ça. Et on réfléchit ensemble à ça. Et pour moi, il n'y a personne qui peut... Il ne faut pas se mettre de barrière par rapport à la politique. Au contraire, moi, j'invite tous celles et tous ceux qui nous écoutent, qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas ou quoi que ce soit, à venir me voir pour me dire j'ai telle idée. Et on voit ensemble si c'est possible. Je la rapproche de l'adjoint qui est sur cette thématique ou quoi que ce soit. Et on travaille ensemble. Ça part de la base. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas différents en tant qu'élus. On a juste une voix qui est un peu... qui s'entend un peu plus parce qu'on a, voilà, vous m'invitez à votre micro aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais on a rien de différent, on vient des quartiers, on vit ces quartiers-là. Et donc, au contraire, j'invite moi toutes les personnes, qu'ils aient leur bac ou pas, qu'ils aient un diplôme ou pas, qu'ils soient jeunes ou vieux ou quoi que ce soit, à venir débattre de politique, parce que la politique, c'est la vie de tous les jours, en fait. C'est la vie de tous les jours. Et on n'en a pas conscience, mais c'est de tout ça qu'on s'occupe à la ville de Rouen ou dans d'autres collectivités.
Je vous remercie, Ludovic. J'ai une dernière question parce que c'est vrai que ce que vous venez de dire m'a fait penser à une question. Est-ce que ce serait pas intéressant de remettre en place des commissions de quartier, du lien entre élus et population pour justement peut-être lutter aussi contre l'absentéisme qu'il y a eu pendant l'élection municipale ? Je sais qu'il y a des choses que vos collègues font, des réunions publiques, oui. Des choses comme ça, mais peut-être utiliser un autre format, je sais pas, peut-être des apéros improvisés dehors, que sais-je encore, des moments festifs pour justement rapprocher élus et population.
C'est pour ça que le Nicolas Mercional a voulu mettre plus d'adjoints de secteur. Aujourd'hui, il y a des adjoints de secteur, plus des conseillers municipaux délégués au secteur, comme Hakim Salah sur les Hauts-de-Rouen. Pour mettre en place des actions citoyennes de démocratie participative. Et les conseils de quartier comme ça existait, ça ne sera pas la même forme, mais oui, la ville veut en remettre en place, des conseils de quartier sous une forme peut-être différente de ce qu'ils existaient auparavant, parce qu'il y avait aussi des dysfonctionnements, c'était souvent les mêmes personnes aussi, enfin voilà, donc ça, il faut qu'il y ait beaucoup plus de représentation du quartier dans ces instances.
Vous connaissez la formule, pardon de vous couper, hein, mais vous connaissez la formule, c'est on les voit pendant les élections et après on ne les voit plus. Vous, majorité comme opposition, hein. Ah oui. C'est ce que les gens pensent en général du monde politique.
L'élection est passée. On y avait l'inauguration de la ferme Déo samedi. Il y avait une dizaine d'élus.
Oui, c'est ça.
J'ai fait
la remarque de, ils sont venus en force.
De la majorité comme de l'opposition en plus.
Tout à fait.
Marine Caron était là. Oui. Non, mais voilà, moi j'ai aucun souci pour le préciser parce que pour moi je me porte en faux par rapport à ça. Parce que les élus ils sont tout le temps. Je vois Adrien Nézet qui est sur la rive gauche. Il fait des marches. Il a fait plusieurs marches déjà sur le quartier depuis l'élection.
C'est à lui que je pensais quand je disais mais qu'il y a des choses qui se sont mises
en place. Voilà.